au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Venise, d'Henri de Régnier à Marie-Claire Blay. Anne de Vaucher-Gravilly, professeure associée de langue française et de littérature francophone, nous accueille avec la plus grande courtoisie à la gare centrale de Venise. Cette femme vive et charmante nous rappelle tout de suite l'amour que les écrivains italiens, français, francophones et du monde entier, ont toujours porté à la Sérénissime. Et ce n'est pas fini. Paul Morand n'est pas le moins illustre, mais avant lui, il y eut entre autres Henri de Régnier, écrivain plutôt oublié aujourd'hui, auteur d'un roman très vénitien titré « L'Entrevue », et dont l'action se déroule dans le quartier des Carmes, grâce à Régnier, lequel est fasciné par la belle cité et à son invitation. Certains des meilleurs esprits parmi les plus pétillants de la société française de l'époque se retrouvaient régulièrement à Venise. Le poète symboliste, logé au palais Dario, chez une de ses compatriotes, il sut également décrire à merveille la ville, souligne Anne de Vaucher-Gravilly, grâce à deux autres témoignages, Esquisse vénitienne et La cité des eaux. Cette femme érudite brûle de nous faire découvrir la Sérénissime, ne serait-ce que pendant quelques heures, comme l'illustre Régnier l'aurait présenté à un voyageur de passage. Grâce à cette femme enthousiaste, nous voici soudain entraînés dans la Mecque artistique, si chère à tant d'écrivains et de visiteurs sensibles à son esthétique. Nul doute que tous ceux qui ont gravité autour d'Henri de Régnier aimèrent infiniment Venise. Ils la vécurent ou la revécurent, comme l'écrit avec justesse Paul Morand, dans sa gloire et sa décadence. Ces collectionneurs de bibelots précieux adoraient se repasser les meilleures adresses, il en existe encore aujourd'hui beaucoup. En franchissant l'un des innombrables petits ponts qui couvrent les îles, notre hôtesse se plaît à citer ces mots du peintre américain James Whistler : c'est après la pluie qu'il faut voir Venise. Mais en ce mois de mars, point de nuages menaçant dans le ciel, mais plutôt un soleil agréable qui réchauffe cependant à peine le vent très frais maître des ruelles. Tandis que nous traversons le quartier du Rialto, nous en profitons pour admirer quelques-uns des palais enchanteurs qui le jouxtent. Notre guide, ô combien cultivé, nous rafraîchit la mémoire en égrenant le nom de quelques autres auteurs qui ont écrit de belles pages sur la cité des Doges. George Sand, avec son Santa Margherita, a su nous enchanter, tout comme André Suarez et son délicieux voyage en Italie. Signalons aussi que Rezvani, auteur d'origine persane, qui a longuement vécu les 6 mois d'hiver près de la prison des femmes dont il aimait entendre les cloches, réside à présent dans un petit appartement situé près de l'Académie. Cet adorateur de Venise a écrit entre autres « Variations des nuits et des jours ». Dans ce livre d'une vive sensibilité, il met en scène l'île de la Giudecca, connue aussi sous le nom de l'île des Juifs. En nous entraînant plus profondément au cœur de cette cité qui est devenue sa propriété, Anne de Vaucher-Gravilly nous raconte son arrivée en 1966 au moment de la très haute marée. Amoureuse d'un Italien, elle a décidé de rester et, pour gagner sa vie, est devenue lectrice de français dans un lycée. Ayant déjà en poche une licence d'italien passée à Lyon, la jeune femme n'a pas hésité à suivre des cours à l'université de Pise pour décrocher une deuxième licence, mais cette fois dans le domaine français, sur l'auteur Claude Aveline, qui, on ne le sait pas toujours, a été en son temps le secrétaire d'Anatole France, ce personnage d'origine russe et de confession juive qui s'est éteint en 1992, avait, nous raconte notre interlocutrice, une très grande passion pour la langue française. C'est ce qui explique qu'après quelques années d'études, elle a présenté un mémoire sur le thème suivant, réel et surréel, dans l'œuvre romanesque de Claude Aveline. Ce monsieur a en outre rédigé de remarquables histoires fantastiques et des romans policiers. Lyon, Venise, puis Pise et de nouveau Venise, tel est l'itinéraire de la jeune enseignante heureuse de vivre dans un cadre aussi exceptionnel. Comme son dynamisme est remarquable, un jour on lui a demandé de donner des cours de langue française à l'université. Les événements de mai 68, qui secouent alors successivement Berkeley, Paris, Berlin et tant d'autres villes dans le monde, déferlent aussi sur une Italie où la façon d'enseigner restait très traditionnelle. Les étudiants devaient en effet apprendre par cœur des tranches de savoir vraiment encyclopédiques. Notre interlocutrice se souvient parfaitement de cette époque où les étudiants de français souffraient de respirer d'atmosphère confinée. La plupart d'entre eux rêvaient de découvrir la France moderne et se lassaient de l'explorer seulement dans les livres. Heureux hasard, puisqu'en 1971, elle devient l'assistante d'un mandarin, le professeur Massariol Stojković, une universitaire spécialiste de Villon, du récit bref et du XVe siècle. Aujourd'hui, elle lui est encore reconnaissante, car cette dernière lui a beaucoup appris. Durant des années, Anne de Vaucher-Gravilly travaille avec passion sur le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle et finit par se spécialiser en choisissant le récit bref au XVIe siècle et l'histoire tragique en France. Elle s'intéresse alors plus précisément à l'évêque d'Agen, Matteo Bandello, qui est d'origine italienne. Entre 1550 et 1560, celui-ci a écrit pas moins de 214 nouvelles fort prisées, dont « Roméo et Juliette et le rêve d'amour ». Ce sont de précieux témoignages sur la vie quotidienne en Italie et en France au XVIe siècle. Il faut noter que si le plus souvent le récit historique est terrible, en revanche, la fin doit toujours être édifiante. Comme Paul Morand à Venise, Anne de Vaucher-Gravilly a pris sa première leçon de planète. N'est-ce point extraordinaire de vivre de façon permanente dans le décor d'un grand opéra ? C'est dans ce décor, il faut se souvenir, que Titien s'éteint après avoir peint sa déposition, le Tintoret après avoir fini San Marziale et Verrocchio après avoir sculpté la statue équestre de Bartolomeo Colleoni. Impressionnant, non. À Venise, seul semble compter l'hymne à la beauté. Alors, avoir la chance d'enseigner dans un tel cadre des auteurs que l'on apprécie au plus haut point permet d'approcher, pour reprendre le titre d'un livre très connu de Jean Giono, les vraies richesses. N'était-ce point un autre grand écrivain, Marcel Proust, qui appelait Venise au lieu de la religion et de la beauté. Cette ville si chère aux poètes et aux rêveurs a également accueilli le fougueux Balzac, qui a su s'en inspirer. C'est Théophile Gautier, fameux théoricien de l'art pour l'art, qui, en découvrant le Grand Canal, s'exclama « C'est le registre de la noblesse vénitienne ». Amoureuse de sa ville, notre interlocutrice l'est assurément. Inspirée par tant d'artistes qui la stimulent dans ses recherches, cette femme devenue une érudite réussit à rendre lisibles des histoires anciennes en participant notamment à l'édition critique des histoires tragiques de François de Rosset. Et puis, au fur et à mesure qu'elle se spécialise dans l'étude du récit bref, elle est amenée à examiner le récit fantastique au XIXe siècle. C'est après avoir étudié des auteurs tels Mérimée, Gautier et Maupassant qu'elle découvre Claude Aveline, l'un des maîtres du genre au XXe siècle. Cette universitaire qui se considère comme très rationnelle s'étonne à peine d'être attirée par l'inexplicable. Une question nous démange. Est-ce que le tragique existe encore dans la littérature française aujourd'hui ? Elle nous répond « Oui ». Même si ce n'est plus le tragique extérieur à l'homme, comme au XVIIe siècle, mais plutôt tout ce qui touche à l'inconscient. Après ses études littéraires approfondies sur l'Italie et la France, pourquoi s'est-elle alors tournée vers la francophonie ? La réponse ne tarde pas. À partir de 1985, elle a senti le besoin de se renouveler et de trouver une autre matière qui la stimula. Dans sa faculté, s'apercevant qu'un professeur proposer un cours sur l'histoire des pays de langue anglaise, elle eut l'idée d'offrir quelque chose sur la francophonie. Comme elle n'y connaissait rien, elle se renseigna auprès du délégué général du Québec à Rome, Luciano Dorotea, lequel lui envoya les trois premiers tomes du fameux dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, préparé sous la direction du professeur Maurice Lemire, un maître. Ce monsieur lui suggéra également de recevoir un professeur de l'université McGill, Jean-Étienne Blé, un excellent critique et un personnage qui incarnait à la fois l'univers canadien-français traditionnel en train de s'effacer et un nouvel univers québécois tourné vers la modernité. Pour notre universitaire, il est clair que l'œuvre de M. Blais s'inscrit au cœur de cette dualité. Ses récits autobiographiques sont en effet plutôt nostalgiques, tandis que les signés, livres de M. Étienne Blais, explorent à merveille une réalité en pleine ébullition. Ayant vivement apprécié deux livres de l'auteur, « Mater au repas » et « Voyage d'hiver », elle décida d'écrire des articles pour les présenter au public italien. Au fil du temps, elle découvre peu à peu la complexité de l'écrivain et essayiste Jean-Étienne Blais, né, précisons-le, dans le nord de l'Ontario, devenu par la force des choses un défenseur formidable du français et un passionné pour la cause du Québec et de la francophonie. Profitant de la générosité de la Délégation générale du Québec et de l'ambassade du Canada, Anne de Vaucher-Gravilly crée alors les premiers rayons d'une bibliothèque québécoise. Une fois qu'elle se considère initiée à ces richesses nouvelles à partir de 1990, elle propose un premier cours sur les littératures de la francophonie. Grâce à son travail intense aujourd'hui, plus de 20 mémoires de maîtrise ont été soutenues dans le domaine québécois et au moins 5 autres sur les Antilles, la Tunisie et la Belgique. En outre, elle précise qu'un mémoire sur Andrei Makin a été accepté. Nul doute que ce dernier représente la francophonie, francophilie, mais cette fois celle venue de Russie jusqu'en France. Lorsque nous passons devant la basilique votive de la Salute, cette femme profondément éprise d'art nous signale que tous les peintres ont aimé sa forme, ses volutes et sa coupole gris-vert. Aussi bien Guardi, Canaletto, que les romantiques et les impressionnistes ont été fascinés par cet édifice toujours mis en valeur par les innombrables jeux du soleil. Devant nous, les Vaporetti ne cessent de déposer et d'embarquer touristes, flâneurs et travailleurs, ces fameux Vaporetti que les amis d'Henri de Régnier appelaient hirondelles, pyroscaphes ou mouches. Pour goûter aux charmes innombrables de Venise, il est indispensable de lire « Les délices de l'Italie », un ancien guide du XVIIIe siècle écrit par le sieur Rogissart, ou encore d'examiner le plan de Venise établi en 1500 par Jacopo Barbari. Après avoir été initié par ces deux auteurs, l'on sait que l'on appartient corps et âme à la cité des Doges. Installé à présent à une table du café Florian, il n'est pas étonnant qu'avec Anne de Vaucher-Gravilly, nous évoquions certains écrivains québécois dans ces lieux si propices aux rêveries aquatiques et où l'inconscient s'y baigne à merveille. Parmi eux, Marie-Claire Blais l'a probablement le plus impressionnée. Elle lui a d'ailleurs consacré un essai. Pour elle, c'est l'auteur québécois le plus universel. De cet écrivain talentueux, notre universitaire apprécie énormément La Belle Bête, les manuscrits de Pauline Archange et Vision d'Anna. Mais sa préférence va peut-être à Soif, livre pour elle admirable, très complexe, offrant une sorte d'écriture associative, écriture à focalisation multiple, proche par plusieurs aspects de celle de Virginia Woolf. Bien qu'il ne soit pas si facile que cela d'entrer dans l'œuvre de Marie-Claire Blais, Anne de Vaucher-Gravilly est vraiment captivée par cette écriture américaine où l'on trouve de nombreux archétypes plutôt rares dans les œuvres québécoises. Chez Marie-Claire Blais, les mythes de Narcisse, Prométhée et Orphée sont entre autres au rendez-vous. Et puis lire une telle œuvre dans un espace aussi particulier que Venise apporte une dimension autre très inventive. Il faut cependant préciser que l'amour en général et Lesbos en particulier n'a pas attendu Marie-Claire Blais pour chanter à Venise la femme italienne. En ces lieux pleins de réminiscences, les souvenirs amoureux prennent une dimension exceptionnelle où la femme et la courtisane signifient la puissance de la vie. On comprend dès lors pourquoi les rendez-vous amoureux à Venise sont un privilège à ne pas gâcher. Souvenez-vous de l'une des héroïnes de Balzac, Massimilia, qui gémit à cause de son trop respectueux amant. Outre le souvenir d'une autre grande figure, celle de Diaghilev, la cité des Doges a aussi accueilli la fameuse Missia, cette Française si vénitienne, reine du baroque moderne, avec elle il fallait ne pas perdre de temps. L'existence est en effet courte, et comme l'écrivait Lord Byron à Murray le 25 novembre 1816, l'amour dans cette partie du monde n'est pas une sinécure. On ne saurait mieux lire entre les lignes. On peut regretter encore qu'il soit possible d'imaginer une telle rencontre, que Marie-Claire Blais n'ait pas eu la possibilité de rencontrer Marcel Proust, en de tels lieux, lui qui a cité plus de 100 fois Venise dans l'index de la recherche. Cette ville aquatique, enchanteresse, plus botticellienne qu'ophélienne, est donc un lieu privilégié pour s'intéresser à l'univers de la femme et surtout à celui de la féminité. Venise s'affirme bien comme une androgyne quand l'homme ne sait où finit la terre et où commence l'eau, pour emprunter ses propos d'Elstir à Albertine, dans Proust bien sûr. Et comme l'écrit avec une vive perspicacité Paul Morand, « Una sposa à Venise, ce n'est pas la femme mariée, mais la future, on brûle les étapes », même si nous le précisons en faisant un clin d'œil, que lorsque l'on prend le vaporetto en montant dans l'accelerato, il s'agit en réalité du service le plus lent. Ah, ces délicieux masques de la langue ! Ainsi que vous pouvez le constater dans de nombreux domaines, cette ville hors du commun est vraiment inspirante et pleine d'inspiratrices. Entre deux gorgées d'un bon chocolat chaud, Anne de Vaucher-Gravilly nous confie qu'elle apprécie deux autres poètes et romanciers québécois. D'abord Pierre Perrault, auteur d'un roman « Le Mal du Nord », « Le Mal est Maël », qui a retenu son attention. Cet écrivain de la mer est fasciné par le majestueux Saint-Laurent et ses îles. Ensuite Anne Hébert, dont le dernier livre, « L'habit de lumière », l'a comblé juste avant de revenir au Québec pour y rendre l'âme. Cette grande dame de la littérature québécoise a su renouveler de façon étonnante sa thématique en décrivant avec originalité ce Paris où elle a si longtemps vécu. Un autre écrivain d'une génération plus récente, Monique Proulx, a permis à notre interlocutrice de mieux comprendre l'évolution actuelle de la littérature québécoise. Il faut également se féliciter que le professeur Gravilly ait eu l'idée d'organiser un séminaire international en octobre 1999 sur le thème des écritures migrantes au Québec. Les actes de séminaire, qui ont été publiés en février 2001, ont eu une excellente réception. Avant de nous entraîner dans une autre partie de Venise, notre interlocutrice nous confie qu'elle rencontre assez régulièrement deux autres écrivains du Québec qui sont aussi des critiques. Il s'agit de Lise Gauvin qui, dit-elle, observe bien la réalité littéraire québécoise et du poète Claude Beausoleil, un personnage brillant et polyvalent. Elle aime particulièrement les 12 petits poèmes qu'il a édités en Belgique sous le titre « Loin du sommeil dans la question ». Claude Beausoleil est un être original, très ouvert sur le monde. Il occupe déjà une place de choix parmi les écrivains de la francophonie mondiale. Tout en écoutant cet universitaire nous raconter combien elle apprécie la qualité de la vie dans cette cité qui accueille un summum de civilisation et se situe en même temps hors du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous revient à l'esprit le livre stimulant de Paul Morand sur Venise, dans lequel se trouve la phrase suivante. Ils appuient les propos de notre interlocutrice. Venise est venue s'échouer où l'on ne pouvait pas le faire. C'est son génie. Cette ville est un éloge à la lenteur, à peine troublée par le pas si vif de certains passants qui filent à leur travail. Mais en revanche, pas la moindre voiture à l'horizon pour nous déranger. Aussi le bruit étant plutôt minimal, favorise-t-il la réflexion. Nous profitons ici, phénomène rare, d'un espace urbain né au Moyen-Âge et conservé quasiment l'état. D'où un rythme plein d'humanité que l'on peut observer chez les natifs du coin, toujours heureux de converser, de jouer avec les mots et d'en rire aux éclats. Au fil de notre promenade bien réglée, notre hôtesse n'arrête d'ailleurs pas de dire bonjour à des visages bienveillants et de serrer des mains amies. Coup de hasard, toujours bien fait, elle se retrouve soudain devant le professeur Paolo Poppa, spécialiste d'histoire du théâtre et de Goldoni. Beaucoup ne savent pas que cet auteur, rénovateur de la scène italienne, qui a substitué à la farce à canevas la comédie de mœurs, a écrit directement plusieurs livres en français, par exemple « Le bourru bienfaisant » en 1771 et « Mémoire » 1784-1787. Tout ce qui nous entoure, un quartier, une place, un canal, des ponts et des petites boutiques, nous permet de participer en direct au lever de rideau d'un théâtre, vivre dans une si belle cité qui a tant marqué le monde méditerranéen, est un rêve culturel puisque la beauté nous enveloppe. Venise est en effet la ville qui offre au monde le plus de richesses au mètre carré. Chaque palais, il y en a des centaines, recèlent des trésors. Et que dire des œuvres contenues dans les grands musées comme le Guggenheim ou le Correr, ou des chefs-d'œuvre installés dans les nefs de nombreuses églises à Saint-Simon. Le visiteur ébloui peut admirer l'une des dernières scènes du Tintoret, et dans la basilique Sainte-Marie glorieuse des Frères, des œuvres du Titien, de Gentile Bellini, ou encore la tombe de Monteverdi et le cénotaphe de Canova, sculpteur de la fin du XIXe siècle. Tous ces monuments nous offrent leurs couleurs, leurs formes, ce sont des merveilles. N'est-ce point Lord Byron, déjà cité, l'auteur du fameux Don Juan, qui s'est un jour exclamé « Venise, masque de l'Italie ». De même, apprécier la beauté de la Sérénissime, la nuit, pour reprendre une des formules si senties de Paul Morand, c'est contempler un Guardi sans personnage. On ne peut qu'être réjoui en admirant toujours plus la nuit, la lumière diffusée par les fameux lustres préparés à Murano, royaume des couleurs, cette ville admirable, et le jour enflammé de rouge et de safran. Imagine-t-on le nombre de tapisseries qui ornent toujours certaines pièces des principaux palais. Dans un tel cas, tout est un enchantement. Curieusement, Napoléon, qui a tant fasciné le monde, a osé écrire « Je serai l'Attila de Venise ». Et il l'a été. C'est, n'oublions pas, le futur empereur qui a ruiné la Sérénissime. Jusque-là porté par 13 siècles d'élégance et de victoire, il faut lire le livre de Monsieur Amable de Fournoux sur Venise pour réaliser à quel point il a été terrible pour Venise. Notre interlocutrice nous raconte qu'un jour, son beau-frère, voulant lui faire plaisir, lui offert une gravure montrant l'arrivée de l'ogre, place Saint-Marc. L'ogre, bien sûr, c'est Napoléon. Par la suite, chaque fois qu'elle recevait à dîner des amis italiens, ceux-ci ne pouvaient s'empêcher de lui demander si elle n'avait pas honte d'accrocher dans son entrée une telle scène. Elle a compris le message et a donc relégué ce cadeau sulfureux dans sa maison d'Annecy. Bien qu'ayant toutes les apparences d'un musée, cela n'empêche en rien Venise de rester totalement vivante. Du sommet du campanile, l'on embrasse à merveille la ville plutôt étalée, toute bruissante, de couleur saumonée, pleine de beige, fatiguée, mais à l'occasion relevée par le cramoisi sombre de certaines façades. Ce n'est plus alors le saumon qui domine, mais plutôt la chair vive du thon. Nul doute que la hauteur permet de mieux comprendre l'intimité qui existe entre Saint-Marc et le palais. La basilique apparaît bien comme la chapelle privée des doges. De cet observatoire privilégié, l'on peut également admirer les 4 chevaux de Lysippe, lesquels n'ont certainement pas oublié leur voyage à Paris. En 1798, ils ont été embarqués manu militari par la frégate française La Sensible sous les regards éplorés des Vénitiens. Venise et la cathédrale Saint-Marc, mosquée dont le pavement déclive et boursouflé ressemble à des tapis de prière juxtaposés, a écrit au début de son livre sur la Sérénissime Paul Morand, le grand voyageur. La cité est assurément un véritable défi aux lois physiques et architecturales. Comment avoir réussi à faire du dur avec du mou? Toujours avec Morand, on peut penser « Seul le reflet de Venise dans notre mémoire est plus léger que la réalité ». Qui recommencerait cela? Qui, en effet, aurait l'énergie, le courage, le talent, l'argent pour construire et pour reconstruire pendant 16 siècles un tel joyau de la civilisation universelle? La Sérénissime, heureusement sortie des griffes de Napoléon, nous offre ses fresques restaurées. La Scala d'Oro, la salle du Grand Conseil avec le paradis du Tentore et l'ovale immense du plafond somptueux peint par Véronèse, l'annonciateur du baroque. Venise, c'est aussi la Fenice à qui l'on a redonné son lustre. Ce sont les nombreux palais tels le Gracchi, les palaces tels le Danieli, les places, les îles, l'eau lagunaire qui par moments ressemble à un vrai cappuccino. Venise est assurément une école d'énergie, ce que n'a pas toujours compris le Quai d'Orsay. Au XVe siècle, cette ville marchande était, si l'on veut, le New York de l'époque. Plongé au cœur de cette cité envoûtante, nous demandons alors à notre interlocutrice de bien vouloir nous citer ses écrivains italiens préférés. Le nom d'Elsa Morante, romancière à la fois réaliste et pleine de poésie, vient en premier avec son œuvre la plus connue, La Storia, 1974. Elle est aussi l'auteur de Mensonges et sortilèges, 1948. Un autre nom jaillit spontanément sur les lèvres de mon interlocutrice. Il s'agit de l'ex-femme d'Alberto Moravia, Dacia Maraini, dont les livres explorent de nombreuses facettes de la féminité. D'autres écrivains l'émeuvent beaucoup, ainsi Alessandro Baricco, qui fut le chef du mouvement romantique italien et créateur d'un chef-d'œuvre, Les Fiancées. En outre, elle apprécie énormément deux maîtres, d'abord Dante avec la Divine Comédie et ensuite l'Arioste, ce très illustre poète italien de la Renaissance, auteur de Orlando Furioso, Roland Furieux, 1516-1532, sorte de parodie héroïque comique de l'épopée chevaleresque. Bref, grâce à Anne de Vaucher-Gravilly, cette amoureuse de la francophonie, les villes de Lyon, Paris, Annecy, Montréal et Venise, sans même parler d'autres villes italiennes, songez à Pise, et étrangères, sont autant de lieux où rayonnent la langue et la culture française, la francophonie et le dialogue des cultures. Heureuse, elle l'est visiblement de vivre ici au cœur d'un univers culturel et intellectuel propice aux recherches, aux conférences et à la générosité de l'esprit et du cœur. Avec notre hôtesse, nous avons redécouvert une ville exceptionnelle où des styles uniques se côtoient, aussi bien ceux de la Renaissance et du Baroque que ceux du monde byzantin, et toujours inspirés par l'œuvre de Morand qui, après Goethe, n'oublions pas les mémoires de Goethe, Paris Charpentier, libraire, éditeur 1855, n'oublions pas l'œuvre de Taine, Hippolyte Taine, philosophe de l'art 1882 et tant d'autres esprits distingués, a écrit « Sur le canal passa le Wagner du duo de Tristan et celui d'une gondole funèbre, la sienne. Non nobis domine, nous continuons à parcourir cette ville unique au monde. » Nul doute que la sérénissime, celle qui défie le temps, accueille de façon permanente, en dépit du mauvais souvenir laissé par Napoléon, cet univers en français dont elle s'est durablement entichée. Quelques semaines après notre visite, nous tombons sur un vieux numéro du Monde des Livres, daté du vendredi 23 novembre 2001, dans lequel se trouve un compte-rendu d'une rencontre francophone qui a eu lieu à Beyrouth à l'occasion de la remise du prix des 5 continents. Qu'il nous soit permis de citer ce qui suit, il était étrange d'entendre, alors que le credo de la francophonie est la diversité culturelle, les jugements portés par certains écrivains à l'encontre de la littérature française contemporaine, ainsi de Lise Bissonnette, une Québécoise qu'il estimait bien inférieure à ce qui se produit aux États-Unis. Gageons que cette opinion, qui reflète un réflexe défensif face à l'hégémonie parisienne, réelle en matière éditoriale, n'entamera pas une défense de la diversité culturelle, dont le chemin passe aussi par Paris. Même s'il est évident que la francophonie littéraire n'est pas encore assez connue des Français, ce n'est pas une raison suffisante pour que certains francophones en mal de publicité chez eux portent des jugements rapides et superficiels sur l'ensemble de la littérature française. La France, précisons-le, a toujours accueilli de nombreux auteurs de la francophonie mondiale, de Milan Kundera, en passant par François Cheng de l'Académie française, Vassilis Alexakis, Hector Bianchotti de l'Académie française, Michel Del Castillo, Elie Wiesel, Eduardo Manet, Brina Svit, Anne Hébert et Chancha, ils sont légion. La France n'étant rien fermée à d'autres horizons. Dans l'un de ses derniers livres qui porte justement sur les auteurs de la francophonie, André Brincourt, auteur de Langue française, Terre d'accueil, édition du Rocher 1997, est l'exemple même du critique soucieux de témoigner de la diversité culturelle, cette fois en français. Par ailleurs, Anamine Malouf, fort de son immense talent, montre bien que de nombreux auteurs francophones sont heureux d'offrir et de partager leurs univers, autant avec les Français qu'avec d'autres peuples. Mais pour qu'il y ait une véritable diversité, il faut toujours plus encourager les échanges, les débats, les rencontres. Venise est une invitation au voyage, une école de la tolérance. Tels sont les Italiens francophiles, des êtres tolérants, tournés vers les mondes en français. Nous vous remercions d'avoir écouté cette série d'émissions sur l'Italie, ces 3 émissions sur l'Italie, et nous vous précisons que vous pouvez parfaitement télécharger gracieusement ces émissions dans notre superbe médiathèque. Merci.